Littérairement votre.
Bonjour Carmen.
Bonjour.
Bonjour à vous. Merci de nous accueillir dans vos chaumières de l'autre côté des ondes, avec toujours autant de fidélité. Si j'en crois mes notes, nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui à Georges Courteline, auteur de célèbres de pièces de théâtre. Carmen, pour nous mettre la puce à l'oreille, si je puis dire, tu vas sans doute nous en apprendre un peu plus, n'est-ce pas ?
Oh, mais bien sûr ! Donc, ce cher Georges Courteline est le fils de l'écrivain et auteur de théâtre Joseph-Désiré Moineau, connu sous le nom de plume de Jules Moineau et de Victorine Françoise Perruchot. Georges Courteline est né à Tours en 1858. Il est le fils d'un écrivain donc célèbre. Il a d'abord été élevé dans cette ville par ses grands-parents, avant que ses parents ne le fassent venir à Paris à l'âge de 5 ans. Tous les étés, la famille s'installe dans une villa à Montmartre. C'est là que se rendent en visite toutes les célébrités du théâtre du Second Empire et Courteline en garde toute sa vie, un souvenir impérissable. Après ses études au collège de Meaux, il fait son service militaire à Bar-le-Duc en 1879 au 13e régiment de chasseurs à cheval qui lui inspire quelques-unes de ses satires. En 1880, il entre comme expéditionnaire au ministère de l'Intérieur, à la Direction générale des cultes, et se met à écrire sous le pseudonyme de Courteline pour ne pas être confondu avec son père, Jules Moineau. Dans ses écrits, il dépeint notamment des fonctionnaires grisés par le statut, des employés revendicatifs. Son directeur est Charles Dumay, un anticlérical convaincu qui a des velléités d'auteur dramatique et dont la nomination désespère le clergé. Courteline le fait bénéficier de ses relations dans la presse pour que celle-ci loue le directeur qui s'emploie à mener la vie dure à ses administrés religieux. En échange, Dumay lui permet d'être peu assidu à son poste d'expéditionnaire et de se consacrer à l'écriture. En 1881, il crée avec Jacques Madeleine et Georges Millet une revue Paris moderne dans laquelle ils publièrent jusqu'en 1883 quelques poèmes et textes en prose. Courteline s'installe au 89 de la rue Lepic dans une villa qu'il habite entre 1890 et 1903. Il épouse la comédienne Suzanne Berti, atteinte d'une tuberculose mortelle, et légitime ainsi ses deux enfants, Lucille Yvonne Moineau, née en 1893, et André Moineau, né en 1895, et qui consacrera sa vie au théâtre comme acteur et décorateur, sous le nom de Moineau-Courteline. Le 26 mars 1902, après le décès de sa première femme, il rencontre l'actrice Marie-Jeanne Brécou, qu'il épouse le 2 décembre 1907. Il quitte Montmartre, avenue de Saint-Mandé, non loin du domicile de sa mère mourante.
De 1888 à 1893, Georges Courteline fréquente très régulièrement l'auberge du Clou. C'est là qu'il crée le chronomètre, ou idiomètre, un tube de verre gradué de 10 à 50, rempli d'alcool, coloré en rouge et communiquant par un long tuyau en caoutchouc avec le sous-sol. Selon un langage convenu avec Courteline, un compère soufflait plus ou moins fort pour faire monter l'alcool dans le tube. De la sorte, chacun en prenant main le tube pouvait connaître son degré de stupidité. Le patron, qui n'était pas au courant de cette supercherie, dut lui aussi passer l'épreuve et fit monter l'alcool au maximum. Une réplique de son invention trônait encore au début du XXIe siècle dans le restaurant qui a fermé ses portes en 2020. Il arrête d'écrire en 1912, gérant les droits que lui rapporte son œuvre théâtrale. Il édite la philosophie de Courteline en 1917. André-Antoine lui demande d'écrire pour son théâtre libre « La paix chez soi » et « Boubou rouge ». Entre au répertoire de la Comédie-Française en 1903 et 1910. Ses pièces sont adaptées au cinéma. Le 24 juin 1926, il reçoit un grand prix de l'Académie française et est élu à l'Académie Goncourt le 24 novembre 1926. Une inflammation de l'orteil occasionne une opération chirurgicale compliquée par le diabète. La gangrène sèche gagne rapidement la jambe droite et il subit une amputation le 5 janvier 1925. De 1925 à 1927, il corrige et annote ses œuvres complètes. Sa santé ne cesse de décliner et il doit subir l'amputation de la jambe gauche le 23 juin 1929, le faisant sombrer dans un coma fatal. Il meurt le 25 juin 1929 à l'âge de 71 ans. Il est inhumé en plein cœur de la 89e division du cimetière du Père Lachaise. Sur la stèle de sa tombe, il est inscrit cette épitaphe. « J'étais né pour rester jeune et j'ai eu l'avantage de m'en apercevoir le jour où j'ai cessé de l'être. » Le pseudonyme Courteline. On lit parfois que Georges Moineau a choisi le pseudonyme Courteline car c'était le nom du Moineau dans le roman de Renard. Ce ne peut être la bonne raison car le Moineau du roman de Renard ne s'appelle pas Courteline mais Drouin, ou Droinon. Il semble qu'il ait opté pour Courteline parce que cela sonnait bien. Ainsi, un musicien assemble des sons au caprice de son inspiration. Georges Courteline est passé dans le langage courant à travers un adjectif qualificatif, le mot courtelinesque qui désigne des personnages ou des situations de la vie réelle, et en particulier les absurdités bureaucratiques et administratives, a rapproché de son célèbre Monsieur les ronds de cuir, qui pourraient être des incarnations dans la vie réelle de ces personnages ou des situations absurdes que ces livres évoquent.
Merci Jean-Paul. Nous allons à présent lire une pièce de théâtre, c'est Scène de la vie de bureau, c'est une scénette en un acte, qui s'appelle Monsieur Badin. Tout cela se passe dans le cabinet du directeur. Celui-ci, installé à sa table de travail, donne des signatures qu'il éponge aussitôt. Brusquement, il s'interrompt, allonge la main vers un cordon de sonnette. La porte s'ouvre, le garçon de bureau apparaît.
C'est vous, Vide ?
Oui, monsieur le directeur.
Est-ce que monsieur Badin est venu ?
Oui, monsieur le directeur.
Monsieur Badin est là ?
Parfaitement.
Réfléchissez à ce que vous dites. Je vous demande si M. Badin, l'expéditionnaire du troisième bureau, est à son poste, oui ou non.
Monsieur le directeur, il y est.
Ovide, vous avez bu.
Moi ?
Alors, avouez la vérité. Je ne vous dirai rien pour cette fois.
Oh, monsieur le directeur, je vous jure, j'ai bu qu'un verre de coco.
La présence de M. Badin au ministère constitue un tel phénomène, une telle anomalie. Enfin, nous allons bien le voir. Allez me chercher, M. Badin.
Bien, monsieur le directeur. Il sort, le directeur s'est remis à la besogne. Enfin, à la porte, trois petits coups.
Entrez.
Apparition de M. Badin, saluant jusqu'à terre. Monsieur le directeur.
Bonjour, M. Badin. Entrez donc, M. Badin. Et prenez un siège, je vous en prie.
Oh, je suis confus.
Du tout, du tout. Dites-moi, monsieur Badin, voilà près de 15 jours que vous n'avez pas mis les pieds à l'administration.
Ne m'en parlez pas.
Permettez. C'est justement pour vous en parler que je vous ai fait prier de passer à mon cabinet. Voilà, dis-je, près de 15 jours que vous n'avez pas mis les pieds à l'administration. Tenu au courant de votre absence par votre chef de bureau et inquiet pour votre santé, j'ai envoyé 6 fois le médecin du ministère prendre de vous de vos nouvelles. On lui a répondu 6 fois que vous étiez à la brasserie.
Monsieur, on lui a menti. Mon concierge est un imposteur que je ferai mettre à la porte par le propriétaire.
Fort bien, monsieur Badin, fort bien. Ne vous excitez pas ainsi.
Monsieur, je vais vous expliquer. J'ai été retenue chez moi par des affaires de famille. J'ai perdu mon beau-frère...
Encore ?
Monsieur...
Ah ça, monsieur Badin, est-ce que vous vous fichez de moi ?
Oh !
À cette heure, vous avez perdu votre beau-frère. Comme déjà, il y a 3 semaines, vous aviez perdu votre tante, comme vous aviez perdu votre oncle le mois dernier, votre père à la Trinité, votre mère à Pâques, sans préjudice, naturellement, de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés que vous n'avez cessé de mettre en terre à la raison d'au moins un la semaine. Quel massacre ! Non mais, quel massacre ! A-t-on idée d'une boucherie pareille ? Et je ne parle ici, notez bien, ni de la petite sœur qui se marie 2 fois l'an, ni de la grande qui accouche 3 mois. Eh bien, monsieur, en voilà assez. Que vous vous moquiez du monde, soit, mais il y a des limites à tout. Et si vous supposez que l'administration vous donne 2400 francs pour que vous passiez votre vie à marier les uns, à enterrer les autres, ou à tenir sur les fonts baptismaux, vous vous mettez le doigt dans l'œil.
Monsieur le directeur...
Taisez-vous. Vous parlerez quand j'aurai fini. Vous êtes ici 3 employés attachés à l'expédition. Vous, Monsieur Soupe et Monsieur Ferbattu. Monsieur Soupe en est aujourd'hui à sa 37e année de service. Il n'y a plus rien à attendre de lui, que l'épreuve de sa vaine bonne volonté. Quant à Monsieur Ferbattu, c'est bien simple. Il place des huiles en province. Alors quoi ? Voilà pourtant où nous en sommes. Il est inouï de penser que sur 3 expéditionnaires, l'un soit gâteux, le second voyageur de commerce et le troisième à l'enterrement depuis le jour de l'an jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et naïvement, vous êtes fait à l'idée que les choses pouvaient continuer de ce train. Non, monsieur Badin, 100 fois non. J'en suis las, moi, des enterrements et des mariages et des baptêmes. Désormais, c'est de 2 choses l'une. La présence ou la démission. Choisissez. Si c'est la démission, je l'accepte. Je l'accepte à cet instant même. Est-ce clair ? Si c'est le contraire, vous me ferez le plaisir d'être ici chaque jour sur le coup de 10 heures et ceci à partir de demain. Est-ce clair ? J'ajoute que le jour où la fatalité, cette fatalité odieuse qui vous poursuit semble se faire un jeu de vous persécuter ou viendra vous frapper de nouveau dans vos affections de famille, je vous balancerai, moi. Est-ce clair ?
Ah, vous me faites bien de la peine, monsieur le directeur. À la façon dont vous me parlez, je vois bien que vous n'êtes pas content.
Allons donc. Mais vous vous trompez. Je suis fort satisfait, au contraire.
Oh, vous raillez.
Moi, monsieur Badin? Que j'eusse une âme de traîtresse? Qu'un si lâche dessein?
Si, monsieur, vous raillez. Vous êtes comme tous ces imbéciles qui trouvent plaisant de me taper sur le ventre et de m'appeler employé pour rire. Pour rire. Dieu vous garde, monsieur, de vivre jamais un quart d'heure de ma vie d'employé pour rire.
Pourquoi cela?
Écoutez, monsieur, avez-vous jamais réfléchi au sort du pauvre fonctionnaire qui, systématiquement, opiniâtrement, ne veut pas aller au bureau et que la peur d'être mis à la porte hante, poursuit, torture, martyrise d'un bout de la journée à l'autre?
Ma foi, non.
Eh bien, monsieur, c'est une chose épouvantable. Et c'est là ma vie, cependant. Tous les matins, je me raisonne, je me dis « Va au bureau, Badin, voilà plus de 8 jours que tu n'y es pas allé. » Je m'habille alors, je pars, je me dirige vers le bureau, mais oui, j'entre à la brasserie. Je prends un boc, 2 bocs, 3 bocs. Je regarde marcher l'horloge, pensant « Quand elle marquera l'heure, je me rendrai à mon ministère. » Malheureusement, quand elle a marqué l'heure, j'attends qu'elle marque le quart. Quand elle a marqué le quart, j'attends qu'elle marque la demi.
Quand elle a marqué la demi, vous vous donnez un quart d'heure de grâce.
Parfaitement. Après quoi, je me dis « Il est trop tard. J'aurai l'air de me moquer du monde. Ce sera pour une autre fois. » Oh, quelle existence! Quelle existence! Moi qui avais un si bon estomac, un si bon sommeil, une si belle gaieté, je ne prends plus plaisir à rien. Tout ce que je mange me semble amer comme du fiel. Si je sors, je longe les murs comme un voleur, l'œil aux aguets et avec la peur incessante de rencontrer un de mes chefs. Si je rentre avec l'idée que je vais trouver chez le concierge mon arrêté de révocation, je vis sous la crainte du renvoi comme un patient sous le couperet. Oh mon Dieu!
Une question, monsieur Badin. Est-ce que vous parlez sérieusement?
Oh, j'ai bien le cœur à la plaisanterie. Mais réfléchissez donc, monsieur le directeur. Les 3000 francs qu'on me donne ici, je n'ai que cela pour vivre, moi. Que deviendrai-je le jour inévitable, hélas, où on ne me les donnera plus? Car enfin, je ne me fais aucune illusion. J'ai 35 ans, âge terrible où le malheureux qui a laissé échapper son pain doit renoncer à l'espoir de le retrouver jamais. Oui, ah, ce n'est pas gai, tout cela. Aussi, je me fais un sang, monsieur. J'ai maigri de 20 livres depuis que je ne suis jamais au ministère. Regardez plutôt mes mollets, si on ne dirait pas des bougies. Et si vous pouviez voir mes reins, des vrais reins de chat écorchés, c'est lamentable. Tenez, monsieur, nous sommes entre hommes, nous pouvons bien nous dire cela. Ce matin, j'ai eu la curiosité de regarder mon derrière dans la glace. Eh bien, j'en suis encore malade, rien que d'y penser. Quel spectacle! Un pauvre petit derrière de rien du tout, gros à peine comme 2 poings. Je n'ai plus de fesses, elles sont fondues. Le chagrin, naturellement, les angoisses continuelles, les affres. Avec ça, je touche la nuit, j'ai des transpirations. Je me lève des 5 à 6 fois pour aller boire au pot à eau. Oh, ça finira mal, tout ça, ça me jouera un mauvais tour.
Eh bien, mais venez au bureau, monsieur Badin.
Impossible, monsieur le directeur.
Pourquoi?
Je ne peux pas, ça m'embête.
Si tous vos collègues tenaient ce langage...
Bah, je vous ferai remarquer, monsieur le directeur, avec tout le respect que je vous dois, qu'il n'y a pas de comparaison à établir entre moi et mes collègues. Mes collègues ne donnent au bureau que leur zèle, leur activité, leur intelligence et leur temps. Moi, c'est ma vie que je sacrifie. Ah, tenez, monsieur, ce n'est plus vivable.
C'est assez mon avis.
N'est-ce pas?
Absolument. Remettez-moi votre démission. Je la transmettrai au ministre.
Ma démission? Mais, monsieur, je ne songe pas à démissionner. Je demande seulement une augmentation.
Comment? Une augmentation?
Dame, monsieur, il faut être juste. Je ne peux pourtant pas me tuer pour 200 francs par mois. Et voilà, nous vous disons donc au revoir.
Et à bientôt.
À bientôt et
bien littérairement votre.